sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL.
L'Ampli de Québec, Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Édition Continuité, Alliance Arc-en-Ciel de Québec, La Baratte.
Maintenant, c'est à notre tour de les encourager.
Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe sur CKRL 89.1. Fréquence d'Outre-Tombe, David, Rocket Ship et Patrick Anctil avec toi pour la prochaine demi-heure. Pat, qu'est-ce qu'on fait à Fréquence d'Outre-Tombe?
À Fréquence d'Outre-Tombe, on explore l'inexploré, on explique l'inexpliqué, on flirte avec le paranormal. Bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe.
On a encore tout un programme ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à outretombe.ckrl@gmail.com pour nous témoigner vos histoires, vos témoignages paranormaux. Vous pouvez aussi nous appeler au 418-640-1586 si vous avez un témoignage à nous raconter. Et on fouille déjà dans notre boîte de courriel.
Oui,
on a une histoire, on a un courriel d'auditeur.
On a eu plusieurs courriels. Je voudrais juste débuter l'émission en disant que hier, quelle belle journée nous avons eue. On est allé se promener au cimetière Saint-Charles, David Rocketship et moi, pour une séance de photos promotionnelle pour Fréquence d'Outre-Tombe. Donc, j'annonce à nos fidèles auditrices et auditeurs qu'on va avoir une page Facebook à découvrir prochainement où on va publier les podcasts de l'émission ainsi que les thèmes musicaux qu'on choisit pour l'émission et puis plein de belles photos à découvrir. Ça a été fait avec le photographe Patrick Gendron. J'en profite pour le plugger. Allez découvrir son talent artistique sur sa page Facebook Patrick Gendron Photography.
Cool, alors à suivre. Et on parlait de courriel. Donc,
on a reçu plusieurs courriels, donc on va prendre un premier courriel qui va comme suit. Bonjour, merci pour votre émission, j'aime beaucoup vous écouter. Je vais garder l'anonymat si vous permettez. Mon histoire remonte à il y a une quinzaine d'années. Je venais de perdre ma mère aux mains d'un cancer et toute notre famille était endeuillée. Pour nous permettre de passer à travers cette épreuve en famille, mon père avait loué un chalet dans la forêt, dans Charlevoix. C'est peut-être le deuil qui m'a rendu plus susceptible à capter l'énergie de l'au-delà. Bref, je vous raconte. Dès le premier matin, je suis sorti pour aller prendre une marche dans le sentier qui passait tout près du chalet. Après avoir marché environ 700 mètres, il m'a semblé voir quelqu'un dans les bois. Pas dans les sentiers, vraiment dans la forêt. Sur le coup, ça m'a semblé être une femme dans une robe rouge bizarre. Puis, je l'ai perdu de vue. J'ai continué ma marche en me demandant si j'avais bien vu quelqu'un ou si mes émotions me jouaient des tours. Un peu plus loin, j'ai revu la même personne. Dans le sentier cette fois-ci, il s'agissait bien d'une femme avec une longue robe rouge et blanche. Elle était dos à moi, la tête baissée, et je pouvais l'entendre pleurer. Je me suis approché et j'ai constaté qu'elle ne portait pas une robe rouge, mais bien une robe blanche maculée de sang. Ça m'a prise par surprise, alors j'ai stoppé à quelques mètres d'elle et je lui ai demandé si elle allait bien. Quand elle s'est retournée, j'ai eu l'horreur de constater qu'elle était défigurée, comme si elle avait eu un terrible accident. Elle m'a regardé avec de grands yeux noirs profonds, puis elle s'est comme volatilisée. Je suis retourné au chalet et je n'ai jamais voulu parler de cette histoire à mes frères et sœurs endeuillés. C'est en fait la première fois que je mets cette histoire en mots. Merci de m'avoir permis de la faire et félicitations encore pour votre programme Fréquence d'Outre-Tombe. Bien, c'est touchant, c'est très touchant. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Est-ce qu'on a un appel, David?
Témoignage anonyme, oui, t'as bien
capté,
t'as bien constaté qu'on a effectivement quelqu'un sur la ligne. Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, à qui on parle?
Ariane.
Oh, Ariane. Bonsoir, Ariane. De quel endroit nous appelles-tu?
J'appelle Saint-Fériol.
Saint-Fériol? Ça, c'est communément appelé la sombre forêt.
Oui. Loin dans les montagnes.
Oui. Donc, est-ce que tu avais une histoire à nous raconter ce soir à Fréquence d'Outre-Tombe?
Ben, dans le fond, j'en aurais plusieurs, c'est sûr, mais j'en ai choisi une. C'était depuis que j'étais toute petite, dans le fond, dans la première maison où est-ce qu'on a habité. Même ma mère, elle voyait plein de choses, mais elle nous l'avait pas dit enfant pour pas nous faire peur. Fait que dans le fond, elle nous l'a dit plus tard. Puis moi, je me rappelle quand j'étais petite fille dans ma chambre, ma porte de garde-robe, à tous les soirs avant de me coucher, je prenais soin de la fermer, de la clencher bien comme il faut, puis je la retirais sur la petite poignée pour être sûre qu'elle ouvre pas. Puis j'allais me coucher, puis à chaque fois la nuit, ça me réveillait. Je me réveillais, puis là, il y avait plein de mouvements dans ma chambre d'ombre. Qui bougeait, puis ma porte de garde-robe était rendue grande ouverte, tout le temps. Par la suite, on avait, dans le fond, dans ma chambre, j'avais une immense fenêtre, je pense que c'était une fenêtre de 9 pieds, puis là, on se retrouve dans les années 80, j'avais une espèce de toile, c'était comme les toiles qu'on tirait, là, pour directement la toile, là, pour baisser, puis qu'il fallait redonner un swing dessus pour la réenrouler, dans le fond.
Oui.
Puis sur une fenêtre de 9 pieds, c'était assez sauvage quand elle remontait, là. Puis en plein milieu de la nuit, à un moment donné, j'avais une petite chaise berçante dans ma chambre, puis elle s'est mise à bercer, puis ça donnait des petits coups, elle avançait jusqu'à mon lit tranquillement. Ma porte de garde-robe a grand ouvert, puis la toile a monté d'un coup, j'étais sûre qu'elle allait décrocher.
OK.
Fait que ça, c'était des choses qui arrivaient pratiquement à toutes les nuits. Puis aussi, quand je me levais la nuit, ma mère, elle disait que je parlais toujours, elle m'entendait toujours chuchoter comme si je parlais à quelqu'un. Parce que dans le fond, c'était les vieilles maisons, comment c'était fait, c'était un long corridor avec toujours plein de pièces de chaque côté. Puis ma chambre était à une extrémité, puis la salle de bain était à l'autre extrémité. Fait que j'allais toujours aux toilettes la nuit. Je devais avoir 3-4 ans. Puis je parlais toujours à quelqu'un. Puis je me rappelle que quand je passais dans le corridor, notre cuisine avait 2 portes, une après l'autre. On pouvait voir la cuisine vraiment comme par 2 vues jusqu'à la salle de bain. Puis quand j'arrivais encore des scènes de chaises berçantes, il y avait des ombres noires qui se berçaient dans les chaises berçantes, dans la chaise berçante qu'on avait dans la cuisine. Puis ça m'arrivait que quand je passais la première porte, je le voyais se bercer, fait que je me dépêchais de passer la deuxième pour pas qu'il me remarque. Puis des fois, la chaise arrêtait, puis je sentais l'ombre qui me regardait vers moi. Puis ma mère, elle, de son côté, elle m'avait raconté plus tard qu'un après-midi, je faisais une sieste. Puis encore là, elle, sa chambre était près de la salle de bain, donc à l'autre extrémité de ma chambre à moi. Puis elle était en train de se préparer dans sa chambre. Elle entendait courir dans le corridor. Elle pensait que c'était moi qui voulais pas aller dormir. Fait que finalement, elle arrêtait pas de me disputer. Puis à un moment donné, elle a fini par regarder, puis elle a vu un petit bonhomme blanc rentrer dans ma chambre. Fait que c'était pas moi, je dormais paisiblement. Fait que c'est ça, on avait beaucoup de choses là-bas qui se passaient. Ça, c'est dans mes souvenirs qui me restaient, là. Mais les épisodes de chaises berçantes, on en a eu beaucoup, là, autant dans la cuisine que dans ma chambre, là. Assez même pour déplacer les meubles dans ma chambre un petit peu aussi. Fait que je crois que c'est pas mal ça, ma première histoire de vie avec les entités.
Écoute, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Effectivement, j'ai souvent entendu des histoires concernant des ombres noires, mais la tienne ce soir était très intéressante et je te remercie beaucoup d'écouter et d'avoir appelé Fréquence d'Outre-Tombe.
Un gros merci. Puis on va t'inviter à nous rappeler peut-être une prochaine pour nous raconter d'autres histoires, puisque tu as dit que tu en avais d'autres.
Ah, j'en ai des centaines.
Hey, ça nous ferait plaisir.
Cool, un gros merci. Saint-Fériol, la sombre forêt. Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Oui, bye bye.
Yeah.
Cool, merci beaucoup. C'était Ariane, hein?
Ariane de la sombre forêt de Saint-Fériol, les neiges. Beau petit coin, je ne sais pas si tu es déjà allé.
Oui, j'ai acheté un radio sur Kijiji, il n'y a pas si longtemps, à Saint-Fériol, les neiges.
Ah oui, puis est-ce qu'il capte
des fréquences tout ça.
Bon, on poursuit avec une histoire.
Ouais, ce soir, on a une histoire sur les platines. Sur les platines, et pas sur les platines pantoute. Quand je dis là, elle est dans nos têtes, cette histoire-là. Je vais te laisser commencer avec ton histoire. Pat, ça nous parle de quoi, en gros, avant de commencer?
Ça nous parle d'une cour d'école et d'un terrain de jeu. Je sais pas si tu situes la rue des Aublats dans le quartier Saint-Sauveur.
Oui, absolument, j'habite pas loin de là.
Oui, bon, ben présentement, on peut voir les clochers d'une église qui sont sur le sol depuis un bon bout de temps. Donc, il y a une école primaire juste là, et entre l'école et les clochers, il y a la cour et le terrain de jeu, et ça va se passer dans ce lieu. Donc, cette histoire s'intitule « L'histoire du terrain de jeu ». C'est l'histoire de Steve et Justine, deux jeunes adultes du quartier Saint-Sauveur qui revenaient de faire la tournée des bars. Plusieurs pintes de bière au quartier général, ensuite deux gros pichets chez Joe Dion, pour finir avec une série de bières très fortes au Griendel. Soirée très arrosée. Arrive la fermeture des bars, dans le temps que c'était à 3 heures, là. Et l'envie de ne pas terminer la soirée se faisait ressentir. Steve et Justine se dirigèrent donc un peu plus loin sur la rue des Aublats, où se trouve une cour d'école primaire, avec un terrain de jeu et des balançoires. Ils commencèrent à se balancer sous dans la nuit, faisant graisser les chaînes de métal des balançoires. Assez éméchés, les deux amis décidèrent de fumer un bat, puis un deuxième, et jamais 203, ils fumèrent un troisième pétard. La soirée ne voulant vraiment pas se terminer, Justine avait préparé une petite surprise pour les deux amis. Elle sortit deux pilules d'un petit bag aux couleurs de l'arc-en-ciel et chacun consomma ses bonbons nocturnes. Rendu vers 4 heures du matin environ, pendant qu'ils chillaient bien bosés dans le terrain de jeu, une petite fille apparut soudainement devant eux. Elle était négligée. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle faisait là toute seule? Elle portait une robe blanche tachée et elle avait les cheveux blonds et très gras. Elle regarda Steve et Justine d'un air triste en leur demandant « Pouvez-vous m'aider à chercher ma mère dans l'école? Elle est coincée dans un local de classe et la porte est barrée. J'aimerais pouvoir rentrer chez moi avec elle. » Bon, disons que c'est le genre d'apparition qui gâche le trip un peu. Évidemment, les deux amis se regardèrent pour savoir s'ils hallucinaient ou s'ils voyaient la même chose. Steve s'écrasa même la cigarette qu'il fumait dans la paume de la main pour voir s'il n'était pas en train de rêver, mais la petite fille était bel et bien là, devant eux. Envahie par son instinct maternel, Justine décida de suivre la petite à l'intérieur de l'école. Steve décida d'attendre dehors, se disant que ça ne serait sûrement pas très long. Juste avant de rentrer dans l'école, la petite fille prit la main de Justine. Sa main était froide et crevassée. On aurait dit celle d'une grand-maman morte. Une fois les portes de l'école franchies, la cloche de la récréation retentit dans le bâtiment. Ça n'avait pas l'air d'une école. En fait, oui, il y avait des pupitres et un tableau dans chaque classe, mais on aurait dit le croisement entre une boucherie et une école primaire. Dans les corridors, au-dessus des cases, il y avait des crochets de bouchers suspendus qui se balançaient. La petite fille tenait toujours la main de Justine, qui se laissait conduire telle une somnambule dans un cauchemar. Elle la conduisit dans une classe où il n'y avait pas de fenêtre. Elle l'assit au premier pupitre devant le bureau de l'institutrice, place qu'elle détestait le plus au monde lorsqu'elle était jeune. Elle vit qu'au tableau ce n'était pas de la craie, mais du sang. Elle vit que dans le sang, un mot était écrit. C'était son nom. Une vieille institutrice entra dès lors dans la classe. Elle était habillée comme dans les années 50. Ses cheveux noirs étaient tressés et son visage blême surplombait un sourire en lame de rasoir lorsqu'elle vit Justine assise, docile devant elle. Elle lui dit d'une voix rauque « Montre-moi tes doigts et place-les sur le pupitre. Je vais te corriger. Tu as toujours été mécréante. Regarde-toi, tu es devenue la traînée du quartier. » La peur et la terreur envahirent Justine. Elle s'évanouit. Dans le coma et dans le noir, Justine sentait qu'elle recevait des coups. Était-ce l'institutrice qui la punissait avec une règle? Les coups, cependant, étaient plus au niveau du visage. Ses yeux finirent par rouvrir. Son amie Steve lui donnait des claques au visage en lui disant « Hey, ça va-tu? Réveille-toi! » Au loin, on entendait les sirènes d'une ambulance qui s'en venait. Justine était prise de convulsions et vomissait sur le sol. Elle était en overdose suite à ce qu'elle avait consommé durant la soirée. Elle passait sans cesse d'un état à l'autre, du coma à la réalité, pendant que son amie essayait de la réveiller. Elle était comme dans deux cauchemars à la fois et, pendant son tourment et sa douleur du moment, elle se demandait quel était le moins pire. La douleur de l'overdose ou la douleur de l'institutrice qui la corrigeait coup après coup, après coup, après coup. Est-ce que ça te donne envie de retourner à l'école, David?
Non, j'ai assez donné côté école.
Ouais, moi aussi, j'ai assez donné côté école, côté retenue. Bref, j'ai bien fait de lâcher ça de bonne heure.
Hey, très cool.
Ouais, ouais.
Ton histoire, Pat, j'adore.
Moi, j'aime beaucoup tes bruits, tes ambiances sonores. C'est magique.
À deux, ça va bien.
Ouais, ouais, merci beaucoup pour l'opportunité. J'apprécie beaucoup.
Parce qu'avoir quatre mains, ça serait pas évident pour tout faire.
Ouais. Est-ce qu'on a une seconde histoire pour la suite de l'émission?
Oui, on a une seconde histoire tout prêt, tout fraîche, sortie de mon laborieux cerveau. Donc, je vous raconte l'histoire qui m'a été racontée, qui s'intitule « La ferme abandonnée ». Donc, c'est une histoire qui est arrivée, ça fait une vingtaine d'années. C'est arrivé à mon ami Vincent et mon ami Danny. Lui, Danny, avait été chez son oncle l'été de ses 11 ans, en fait. Il était allé passer l'été chez son oncle à Montmagny. Lui venait d'acheter une terre, une grande terre, qui était dans le cinquième rang à Montmagny. Puis, c'est une grande terre qui était en fait une ancienne ferme. Donc, il y avait un boisé, une forêt, un champ, évidemment. Il y avait plein de bâtiments là-dessus, une vieille grange, une étable, un poulailler, tout ça. Puis, il y avait une maison qui était relativement récente, qui était sur le bord de la rue. Ça, c'était où la famille habitait, en fait. Puis, plus loin, dans le fond, dépassé le petit boisé, il y avait une ancienne maison qui était la maison des anciens propriétaires, donc d'anciennes familles qui habitaient là. Puis ça, c'était tout au fond du terrain, c'est ça, comme je disais, dépasser le petit boisé. Puis l'oncle en question, donc de Vincent et son fils Danny, qui est donc le cousin de Vincent, lui voulait pas qu'il aille jouer là-bas. Il avait même mis une grosse clôture de bois tout autour de la maison en question parce qu'il était arrivé un sordide incident dans cette maison-là avant que lui récupère le terrain. Ce qui s'était passé à l'époque, c'est qu'un tueur, pendant la nuit, s'est introduit dans la maison et avait tué toute la famille qui se trouvait là. Donc, le fermier, sa femme et leurs trois enfants. Donc, l'oncle de Vincent voulait pas qu'il aille jouer là. Puis même Vincent puis Danny disaient, tu sais, il y a une ambiance particulièrement lourde quand on est autour de cette maison-là. Même les animaux y allaient pas, tu sais, les vaches puis les cochons puis les poules, à tour de rôle étaient en liberté dans le champ, tout ça. Puis ils allaient jamais dans ce coin-là du terrain. Même les arbres, la végétation était dégarnie. Les arbres dans ce coin-là étaient comme lourds, courbés, donnaient l'impression de s'écrouler sur eux-mêmes, comme s'ils portaient le poids du massacre sur leurs branches. Des fois, les deux petits gars, Vincent et Danny, s'aventuraient quand même pas trop loin parce qu'ils étaient curieux. Ça piquait toujours leur curiosité, cette vieille maison-là abandonnée qui est en train de... qu'il laissait à l'abandon, qui était en train de se délabrer, surtout quand il pensait au massacre qui avait eu lieu là-bas. Donc, puis à leur dire, quand ils se forçaient des fois pour pas faire de bruit puis rester là longtemps, ils pouvaient capter, ils pouvaient entendre des mouvements, des pas, puis même des cris au loin qui provenaient de la maison. Puis quand en fait, le cousin de Vincent, Danny, lui, il appelait ça une hantise résiduelle. C'est comme ça qu'il appelait ça. Il avait 10-12 ans, il avait lu ça, je sais pas, il avait entendu ça. Il disait que c'est un événement, que l'événement en question, le massacre, avait généré tellement d'énergie négative et de traumatisme que c'est comme si l'énergie restait, puis l'événement se répétait comme ça jusqu'à ce que ça se dissipe dans le temps, mais c'est tellement lourd en énergie que ça, c'est comme si l'événement arrivait toujours, tu sais. Puis l'événement en question, quand on posait la question, quand j'ai posé la question à mon ami Vincent puis son cousin Danny, il me disait, ben écoute, c'était la nuit, la famille dormait, puis ça le cognait à la porte. Donc le fermier, le père de famille, est allé voir, il est allé répondre, puis c'était un homme qui était arrêté sur le bord du chemin qui disait que son camion était en panne. Donc il est sorti pour aller voir son camion, s'il pouvait, bon, il donnait un coup de pouce, c'est-tu une hausse, c'est-tu une courroie qui a brisé. Puis l'homme en question a décapité le fermier, le père de famille, à coups de hache. Puis là, quand il l'a tué comme ça, il a entendu de l'intérieur de la maison un cri. C'était Josiane, sa fille de 16 ans, qui venait de le regarder, qui le regardait par la fenêtre. Elle avait été réveillée par le son. Elle regardait par la fenêtre. Puis là, il a constaté qu'il y avait quelqu'un dans la maison qui l'avait vu, tu sais. C'est que le tueur est rentré, est monté jusqu'à l'étage, puis il a retrouvé la jeune Josiane cachée dans sa garde-robe, dans son garde-robe. Elle était paniquée, paralysée par la peur. Elle pouvait même pas bouger. Puis lui, il a simplement donné une dizaine de coups de hache. Il a tué Josiane comme ça, à coups de hache. Puis là, après ça, ça l'a réveillé la mère. « Roger, Josiane, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous là? Êtes-vous debout? » Fait que là, le tueur, à ce moment-là, est allé dans la chambre à coucher où il a trouvé la mère en question. Elle était encore couchée dans son lit. Il l'a simplement étranglée, comme ça, de ses deux mains. Puis dans la chambre à coucher, il y avait un fusil de chasse qui traînait. Donc lui a attrapé le fusil de chasse. Puis il est allé dans la pièce à côté. Il restait une chambre en haut, à l'étage. Il y avait les deux petits-enfants qui dormaient. Puis c'est là qu'ils ont assassiné les deux enfants aussi. Donc, à coup de fusil de chasse. Ça, c'est l'histoire qui s'est déroulée. En fait, c'est le massacre qui s'est déroulé. Puis vers la fin de l'été, une semaine, peut-être avant que Vincent quitte l'endroit en question, ben ils ont voulu aller explorer la maison en tant que telle. Donc ils voulaient soit combattre leur peur, se prouver qu'il y avait rien, ou peut-être par curiosité, s'il y avait quelque chose, ils voulaient l'entendre de leurs propres oreilles, le voir de leurs propres yeux, tu sais. Ça que bref, ils sont sortis en douce pendant la nuit, sont allés voir dans la maison, puis de là ils ont pu constater, ils ont pu entendre des cris. Puis comme ils sont arrivés sur le coin de la maison, c'est ça, ils ont entendu un cri, ils sont allés voir. Puis sur le devant de la maison, ils ont vu un vieux camion des années 40 qui était là, puis qui les phares encore allumés, puis il y avait un cadavre décapité, tu sais, devant le camion. Puis là, Vincent demandait à Danny, il dit, c'est-tu là, ça, d'habitude? Il dit, le camion est-tu là? Il dit, non, le camion est pas là, d'habitude. C'est comme s'il revivait, tu sais, l'événement qui a eu lieu. Puis là, ils ont entendu des bruits à l'intérieur de la maison. Donc, ils sont rentrés. Ils se sont dépêchés à courir en haut, monter à l'étage, parce que c'est là que tout s'était passé. Puis, quand ils sont rentrés dans la chambre de la malheureuse Josiane, ben, ils sont rentrés. Puis, la chambre était à peu près vide. Il y avait un lit. Puis le garde-robe, la porte de la garde-robe était encore ouverte. Puis tout ce qu'ils voyaient de loin, ben, c'était justement un cadavre recroquevillé dans une drôle de position dans le fond du garde-robe. Puis là, quand ils se sont approchés, ben, c'est ça qu'ils ont vu, c'était Josiane. Puis c'est pas qu'il était dans une drôle de position, c'est qu'il était découpé en petits morceaux. Puis il y avait une flaque de sang encore qui coulait encore devant leurs yeux. Donc c'est ce qu'ils ont pu constaté Vincent et Danny cet été-là dans la maison, dans l'ancienne ferme de Montmagny.
C'est assez incroyable.
Alors, c'était cette histoire de la ferme abandonné. Et il nous reste quelques minutes. J'aimerais vous proposer un morceau musical.
Yay, une pièce musicale.
Une pièce musicale.
Pour conclure l'émission.
Pour conclure l'émission, exactement. On va fermer là-dessus. J'ai Zombina and the Skeletons. Vous allez rigoler, là. C'est quand même un petit morceau... Un petit morceau très très cool. Zombie Nine de Skeletons nous propose un genre de power pop, genre de pop punk. Très cool, très rigolo, avec du synthé un peu là-dedans. Puis il y a toujours justement des thèmes bon, de monstres et de fantômes. Ce qu'on écoute ici, c'est le Zombie Hop par Zombie.
Est-ce que j'ai le temps de dire un petit mot de la fin?
Oui, absolument.
Avant la chanson.
On a le temps.
Oui, juste dire que, écoute, la ville de Québec tombe dans le rouge. C'est normal, hein? Les valves de l'enfer s'ouvrent et les ténèbres pleuvent sur Québec.
Nous, de notre côté, on garde les aiguilles de VU dans le rouge avec Zombina and the Skeletons.
Yeah, merci beaucoup, David.
C'était Fréquence d'Outre-Tombe à CKRL 89.1.
Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
En français d'abord, vous est présenté par l'Hôtel Château-Laurier-Québec. L'Hôtel Château-Laurier-Québec, seul établissement franco-responsable des Amériques. La franco-responsabilité vise le rayonnement de la culture d'expression française. L'hôtel offre une expérience francophone à tous ses visiteurs. Situé au cœur de la ville sur la Grande Allée, l'hôtel vous reçoit dans un confort 4 étoiles. Vous serez aux premières loges des événements de Québec. Membre du réseau Origine, artisan hôtelier.
J'avale le soleil, grande mâchoire. Je l'aspire dans mon grand trou noir. J'arrive jamais à y voir clair, clair. À fabriquer ma propre lumière. J'ai sous la pluie. Je chaleur, bonheur, lumière, joyeux.